franceinter.fr.
Le dessin est une façon extraordinaire de comprendre ce qu'on voit. Parce que ça passe par la main, et que la main est obligée de reconstituer ce que vous avez vu, ça vous oblige à comprendre.
L'atelier de Françoise Keuten, auteure de bande dessinée.
Tout est possible devant ma table de dessin, c'est-à-dire dans ces petites cases, de faire surgir une émotion, une dimension, de creuser la page et d'y faire apparaître des choses incroyables.
Bruxelles, ce soir, nous avons rendez-vous avec un dessinateur belge, Françoise Keuten. Son nom est souvent associé à celui de l'auteur Benoît Peters. Ils ont été au lycée ensemble et ils ont surtout créé une série, Les Cités Obscures, dans lesquelles ils inventent des histoires qui se déroulent dans des villes. On est entre une série classique et un roman graphique, entre le futur et l'histoire. L'architecture y tient une place très importante. Ils ont vraiment renouvelé la bande dessinée, mais c'est lui, ce soir, que l'on rencontre, Françoise Keuten.
Oui, c'est Vincent Josse. Merci.
L'atelier. Une émission montée par Karen Dehé.
Bonjour le chien.
Réalisée par Fanny Bohu.
Bonjour.
Bonjour.
Le chien.
Oui, il m'a accueilli.
Il s'appelle Jim.
Jim. C'est un labrador ou...
Non, c'est un retriever.
Un retriever. Ouais.
Flat coat. C'est un peu le golden version noir.
Noir comme le noir que vous utilisez dans vos BD.
Oui, c'est vrai que j'aime bien le noir. J'aime bien le noir. Et puis, il est très vif, il est très amusant. Il m'oblige d'abord à aller promener. Je fais deux pierres deux coups. Je promène et puis je m'oxygène. Puis on réfléchit comme ça. Je ne sais pas s'il réfléchit beaucoup, mais enfin, moi, je réfléchis beaucoup.
Il dessine aussi?
Non, j'essaie de lui apprendre à ne pas marcher sur mes pages quand je les mets sur le sol.
Alors, on est au sommet de votre maison, où vous vivez en famille,
oui.
Où vous avez élevé quatre enfants.
Oui.
Ici, c'est votre lieu, c'est véritablement votre atelier, là, sous les toits et sous les fenêtres?
Oui, c'est mon antre. Au départ, j'étais au rez-de-chaussée, et puis je me suis installé ici parce que j'avais plus d'espace et plus de lumière. Avoir la lumière naturelle, quand on travaille si longtemps de la couleur, c'est essentiel. Sinon, en lumière artificielle, on fatigue et puis ça déforme le regard.
Oui, vous travaillez en couleur. Hein. On a parlé du noir, mais il y a de la couleur chez Keuten.
Voilà, et je fais tout moi-même, laborieusement, longuement, patiemment. Alors, il n'y a pas tellement d'autres possibilités que d'être assez confortablement installé.
Je viens vous perturber parce que vous avez des horaires très stricts, hein, Françoise Keuten. Vous travaillez du matin jusqu'au soir avec une organisation précise et presque des rituels, peut-être.
C'est pas faux. Il faut une discipline pour faire de la bande dessinée. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, peut-être qu'il y en a d'autres qui arrivent.
Laquelle ?
C'est-à-dire qu'il y a tellement d'heures à passer qu'il faut... Je commence vers 8h30 et je termine vers 19h. Mais 19h, hein, c'est vraiment bizarre. À 19h, je dépose mon crayon. Mais j'essaye d'être très rigoureux là-dessus parce que sinon, vous ne voyez pas avancer. Mais je suis interrompu par les projets un peu d'un autre ordre. Ça me fait comme des vacances à ce moment-là.
Oui, parce que vous êtes éclectique. Hein. Vous n'êtes pas toute votre journée devant votre table à dessin. Vous avez scénographié la station Arts et Métiers à Paris. Mmh. Vous préparez, je crois, un musée du train à Bruxelles.
On va y aller.
Qui est presque terminé. Vous avez beaucoup travaillé. Et puis, de temps en temps, un petit peu de cinéma et un peu de théâtre.
Oui, de l'opéra, des affiches, des murs peints, des spectacles. Enfin, c'est disons l'extraordinaire aventure qu'a apporté la bande dessinée. C'est qu'elle m'a mené vers d'autres territoires. Et ce sont des aventures qui, en fait, font un petit peu le contrepoint à la solitude de la planche. Parce que vous savez, quand vous travaillez sur une histoire pendant deux ans, vous êtes quand même... C'est quand même un petit peu la traversée de l'Atlantique, hein, la rame. C'est long, c'est très long, en tout cas pour moi.
Qu'est-ce qui est le plus long ?
tout est long. C'est-à-dire que d'abord avec Benoît, on prend un certain temps quand même à trouver les bonnes idées, les histoires qui nous motivent.
On va dire qui est Benoît.
Benoît Peters, c'est mon ami et collaborateur depuis très nombreuses années, puisqu'on se connaît depuis qu'on a 12 ans.
Avec qui vous faites quelle série ?
La série des Fités Obscures, depuis maintenant, je crois, une trentaine d'années. Et on a envie voilà, déjà, il faut qu'on ait une idée qui nous excite à nous renouveler, à nous... Et donc ça prend déjà un petit peu de temps. Puis
comment ça se passe au départ? Vous vous téléphonez, vous voyez, vous faites réunions à deux?
Il y a deux fauteuils noirs, là.
Il prend le fauteuil du chien?
Oui, il prend le fauteuil du chien.
Et vous vous dites, ça pourrait se passer dans telle ville, on pourrait inventer tel futur, on pourrait mettre tel patrimoine à l'intérieur de cette bande dessinée, on pourrait inventer une histoire folle. Ça se passe comment?
Oui, ça se passe un peu comme ça, dans le sens où on a souvent des choses en gestation, on a évoqué souvent des tas d'idées, puis à un moment donné, il y en a une qui s'impose. Il y a une espèce d'urgence ou de nécessité impérieuse qui dit, bon, ben, cette histoire-là, maintenant, il faut y aller. Il y a quand même quelque chose au cœur de tout ça qui est de l'ordre du ludique, qui est de l'ordre du plaisir de gamin, parce qu'on est nés ensemble, je dirais presque.
Vous avez été à l'école ensemble, vous êtes allés à l'école ensemble.
Voilà. Alors, quand on se connaît, quand on a 12 ans, on est des enfants. Donc, j'ai toujours le sentiment qu'on retrouve notre âme d'enfant, notre désir de gamin. On se battait parfois à la récréation, on faisait des journaux ensemble.
Qu'est-ce que vous mettiez dans vos journaux? Parce qu'il paraît qu'ils faisaient peur aux parents d'élèves, ces journaux.
Oui, parce qu'on était un peu foufou, on racontait des tas d'histoires comme quoi l'école allait s'enfoncer dans les sables mouvants. Enfin, on était déjà un petit peu dans la réalité fiction. Et donc, c'est amusant toujours de jouer avec ça, mais ça, à un moment donné, ça a un peu inquiété la direction de l'école, qui a repris les choses en main. Ils ont voulu faire leur propre journal, qui était, lui, nourri de traductions latines, ce qui était beaucoup moins excitant pour les gamins que nous étions. Et nous, on était quand même des garnements. Hein. Mais on avait du plaisir à raconter des histoires, tous les deux. On est entouré de livres ici, il n'y a que des livres dans cet espace. Et là, j'arrive même plus où, je sais plus où les mettre.
Livres d'art et romans?
Principalement livres d'art. Beaucoup de livres de peinture, de photographie, d'architecture, de tout. De graphisme, de scénographie. Le livre, c'est vraiment la matrice pour moi, de mes imaginaires.
Vincent Josse, l'atelier.
Vous dessinez des mondes idéaux?
Non, pas du tout. Parce que si avec que des mondes idéaux, on ne raconterait pas d'histoire, tout le monde serait heureux, on serait bien. Non, je raconte plutôt des histoires, des mondes qui, moi et qui, Benoît, nous troublent, nous fascinent, nous interrogent. En fait, pour faire une histoire, il faut une espèce de musique qui soit troublante, lancinante, qui vous submerge. Parce que c'est quand même tellement de temps passé. Donc il faut quand même quelque chose qui résonne en vous profondément.
Précisément, vous êtes en train d'écrire une nouvelle histoire,
une
nouvelle aventure de la série?
Non, ce ne sera peut-être pas une cité obscure, parce qu'elle prend une autonomie particulière. C'est une histoire sur Paris. Donc autant, j'ai beaucoup parlé de Bruxelles, de Bruxelles, autant ici, on va vraiment parler de Paris. Mais un Paris très curieux, puisque ça va être un Paris très futuriste.
Alors quel est le trouble que vous avez trouvé pour avancer dans cette BD?
Alors en fait, on est parti des utopies de Paris, parce que c'est un peu ça qui nous passionne. C'est comment toujours on rêve la ville et comment ces rêves-là font avancer la ville. Alors il y aura les rêves de Jules Verne de Paris, les rêves de Robida, les rêves de... Comment cette ville s'est construite aussi à travers ses délires. Perret, comment il voyait le Corbusier, comment il rasait une partie de Paris. Mais ça sera à travers le fantasme, à travers une femme, une jeune femme qui n'est pas né à Paris, qui revient vers cette ville avec un vaisseau énorme. Et elle s'immerge dans ses utopies, mais elle a une vision très déformée de cette ville.
Donc elle va vivre des choses dans cette ville du futur.
Exactement. Mais une ville, vous allez voir, très, très, très surprenante. Donc voilà, ça sera un regard évidemment très particulier, une façon d'interroger, d'inquiéter le regard qu'on a sur les villes.
C'est important d'inquiéter.
Oui, parce que je trouve qu'autant il est intéressant de faire rêver sur la ville. J'ai travaillé sur le Grand Paris, figurez-vous, à l'époque de Christian Blanc. C'était tellement incroyable de dire, autorisons-nous à imaginer Paris dans 50 ans ? Bon, après, on sait ce qui est arrivé. Il y a eu un changement à la direction du Grand Paris. Et mon projet est resté un peu en carafe.
Donc, il se retrouve là devant nous.
Et il se retrouve un peu là-dedans. Vous avez tout à fait raison. Il renaît, en fait. En fait, les idées n'arrivent jamais tout à fait à mourir. C'est ça qui est formidable, c'est qu'elles prennent une autre forme. Bon, alors, on a gardé l'idée d'utopie. On retrouvera, évidemment, une partie de l'imaginaire que j'ai essayé de développer à travers ce Grand Paris. Mais il faut s'autoriser aussi ce que pourrait être quelque chose de dangereux, une déviance. Moi, j'aime assez bien les utopies dystopiques, c'est-à-dire des moments où on ne se contente pas d'une vision poétique et jolie, mais qu'on s'autorise des dimensions même assez dures, assez violentes.
Ah, mais il y a toujours du danger chez vous.
Oui, il y a toujours du danger parce que sinon, il n'y a pas d'histoire. C'est radical, mais...
Le bonheur est emmerdant.
Le bonheur est emmerdant et puis bon, ça fait des images ennuyeuses aussi.
Bruxelles, dans l'atelier de Françoise Keuten.
On parle de cette BD, concrètement, oui. Puisque...
Vous voulez voir les planches ?
Ah ben je veux voir les planches, je veux tout voir, moi je veux... Oui. On est dans votre atelier.
Vous êtes un des premiers à qui je vais la montrer.
Hey.
Il y en a pas mal.
Mais c'est quasiment fini.
Non, il y a beaucoup. C'est à l'ancienne, hein, c'est... Alors, déjà, apprendre à mon chien de nouveau à ne pas marcher sur les planches.
Alors là, on est à genoux sur votre tapis.
Oui, voilà. Allez.
Ce que je remarque, c'est que les planches sont grandes.
Oui. Parce que je trouve que ça permet un meilleur geste. Et alors, on commence par la tour Eiffel, vous voyez. Parce que cette personne qui est au cœur de ce récit s'immerge dans cette espèce de rêverie autour de Paris. C'était difficile d'échapper à ce symbole, à ce cliché. Mais évidemment, vous allez voir, c'est quand même un petit peu revisité.
On est en 2156 quand même. Voilà. Là, c'est précisé.
Oui, c'est précisé, oui, absolument. Là, on est vraiment dans notre monde. Et donc... Les planches nous montrent ce vaisseau intérieur dans lequel elle erre. Vous voyez, qui est un petit peu comme ça suggéré à travers toute une série de machines, d'engins. Et là, elle va s'immerger dans un univers que j'adore, c'est Robida. Robida, c'est ce grand illustrateur qui a beaucoup imaginé le futur, mais le futur de Paris aussi. Alors, c'était une occasion, évidemment, de faire rêver autour de Robida, qui est un dessinateur que j'adore. Et voilà. Alors là, il y a un personnage qui va arriver, parce que quand même... Ils se rendent compte qu'elle est en train complètement de laisser aller la gestion dont elle est responsable, puisqu'il y a des plantes qui se sont développées à très grande vitesse, puisque on est dans un équilibre extrêmement instable.
C'est ce fameux danger qu'il faut trouver quand on dessine une BD.
Oui, voilà, et dont elle est grandement responsable. C'est un récit qui va beaucoup parler des racines, la quête des origines.
Avec des flashbacks.
Voilà, avec des moments brouillés sur l'utopie. Parce que l'utopie, c'est aussi les rêves des gens font partie de nos racines. Nos cauchemars et nos rêves appartiennent à notre histoire.
Vous rêvez beaucoup, vous, Françoise Keuten ?
Alors, physiquement, réellement, oui. Et puis, je ne peux pas m'empêcher, quand je regarde les choses, à toujours les manipuler, les décliner. J'ai besoin d'être toujours en action. On est toujours en action quand on regarde. Ne fût-ce que pour décrypter ce qu'on regarde. C'est tellement difficile de regarder. Le dessin est une façon extraordinaire de comprendre ce qu'on voit. Parce que ça passe par la main, et que la main est obligée de reconstituer ce que vous avez vu, ça vous oblige à comprendre. Le dessin a tendance à se figer, mine de rien, avec le temps. Il y a des automatismes, il y a des rigidités, il y a trop de réflexes. Donc vous devez le combattre tout le temps. Vous devez le combattre pour que le dessin reste en observation, reste toujours en fragilité, reste vivant. Et ça, c'est très, très dur, ça.
Faulkner disait, il faut tuer ses chéris. C'est-à-dire oui. Aller contre ses habitudes et son savoir-faire.
Oui, ben alors là, les auteurs de BD, c'est un combat permanent. Parce qu'il est presque impensable de ne pas avoir de facilité. Parce que si vous n'avez pas de facilité, vous ne créez pas un certain nombre de facilités. C'est tellement dur. Donc, vous en avez. Et en même temps, c'est ce qui vous tue. Donc, c'est un drôle de truc pour arriver à ce qu'il y ait toujours de la vie, de l'émotion et que ce lien organique à la vie et à l'observation ne se perde pas.
Souvent des mains hein, chez Skuyten.
J'adore les mains. Quand je ne sais pas quoi dessiner, je dessine des mains. savez, c'est l'objet le plus facile à dessiner. Toujours la main gauche qui est disponible quand on est droitier. Donc voilà un modèle qui ne vous embête pas.
Qui ne vous coûte pas cher.
Qui ne vous coûte pas cher et qui est très proche. C'est le plus facile. Je peux vous montrer d'abord le planche qu'on fait au trait. Comme ça.
Au feutre ?
Non, à la plume. Et puis...
C'est déjà extrêmement précis. Hein.
Oui, c'est déjà exactement précis. Puis je fais une impression de la page sur un papier un peu plus propice à la mise en couleur. Mmh. Et alors là, il y a un long travail de mise en couleur qui passe par l'acrylique, le crayon, plusieurs couches pour arriver à... Je suis un peu laborieux, mais je ne travaille pas en plus avec les outils d'aujourd'hui.
Pourquoi ?
Mais je le fais quand je travaille pour le cinéma ou quand je travaille avec d'autres collaborateurs. Là, ils utilisent tous ces outils avec beaucoup de talent. Et j'aime beaucoup le plaisir du papier, des crayons. Je n'ai pas encore trouvé la même chose sur un écran, mais je n'ai rien contre du tout. Je trouve qu'il y en a qui l'utilisent avec tellement de talent. Je n'ai peut-être pas la nécessité pour l'instant de le faire. Alors, c'est un peu laborieux tout ça. Je dois avouer que c'est
Arrêtez de vous faire du mal.
Non, mais parfois je suis effrayé parce que ça prend un peu trop de temps. Mais...
2 ans et demi une BD ?
Oui, 2 ans, oui.
Je crois que vous dites qu'une planche, comme celle qu'on a sous les yeux,
oui,
vous prend une semaine.
Oui, une semaine. Je dois avouer que le temps me permet d'y voir clair. Parce que si les choses vont vite, j'ai l'impression que je ne les comprends pas.
Comment elle s'appelle, votre héroïne du futur livre ?
Elle s'appelle Karine, mais c'est écrit très bizarrement. C'est un nom un peu... avec une consonance un petit peu vietnamienne ou japonaise. Enfin, c'est un nom très, très bizarre. On voulait un nom comme ça qui nous donne une autre dimension.
K-A, accent circonflexe, R-I-N-H.
Voilà, exactement. Et non, il y a encore un peu de travail.
Que manque-t-il ?
Ben, là, il y a beaucoup de couleurs qui manquent. En fait, ici, c'est une page de transition en plus, parce qu'elle est en train de plonger dans l'obscurité, en train de plonger dans l'inconscience, après avoir usé de tas de substances pour s'immerger dans ces mondes artificiels, dans ces utopies parisiennes. On dit que c'est une utopiomane. Alors, cette utopiomane va évidemment le payer très cher. Ça nous fait traverser et les utopies, et l'avenir, et une ville réelle qu'on aime. Donc, il y a des enjeux très particuliers. Mais j'ai toujours envie de rendre hommage aux utopistes. Parce qu'aujourd'hui, on en a bien besoin. On nous assomme de tellement de nouvelles catastrophiques. Et que je trouve qu'on oublie ceux qui nous donnent envie de demain. Ceux qui nous donnent fin d'avenir.
Vous aussi, vous êtes un utopiste en BD ?
Ah ben j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir ce rôle-là. Mais c'est une lourde tâche.
Vous l'inventez aussi, notre avenir ?
Oui, c'est ça. J'essaye de créer des petits espaces où voilà, le goût, le plaisir, le désir un peu de s'amuser avec l'avenir, avec le possible, tous les possibles. On avait fait un livre avec Benoît qui s'appelait « Les portes du possible » et qui était une façon justement de, avec ironie, parce qu'on ne savait pas le faire très sérieusement, et c'était comme si on s'autorisait comme des garnements. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté le journal qu'on faisait ensemble.
Il faudra un jour quitter le lycée, hein, Françoise Skuyten.
Il faudra un jour quitter le lycée. Mais en même temps, c'était, comment dire, on sait très bien, hein, tout le monde le dit, tous les écrivains le disent, l'enfance est un pays inépuisable et dans lequel il est nécessaire de revenir.
C'est ce que vous faites quand vous dessinez ?
Oui, sans doute. Sans doute, quand je dessine, je me replonge dans le... Quand j'ouvrais le grand Little Nemo in Slumberland de McKay, en mangeant du chocolat double lait avec un coca, j'étais ailleurs, ça c'est sûr. Et cette émotion-là, on la traque, on essaie de retrouver une part de cet émerveillement.
Enfant revient pour la deuxième fois dans notre conversation. Qu'est-ce qui est si important dans l'enfance de Françoise Skuyten ?
Ben, j'ai eu beaucoup de chance déjà. Je suis né dans une très grande famille. Il y avait beaucoup d'enfants. J'avais 5 sœurs et 2 frères. Et puis j'avais 2 grands-mères, une tante à la maison.
C'est une chance ça ?
Oui, parce que ça fait comme une grande volière comme ça. Mon père avait une volière. Il y a beaucoup d'animaux. J'avais un mouton. Il y avait des chèvres, des lapins. Bon, on était un petit peu en dehors de Bruxelles. C'était entre la campagne et la ville.
Un père qui est la statue du commandeur pour la famille, grand architecte, qui a inventé l'architecture, en tout cas beaucoup de maisons et de projets à Bruxelles. Hein. Il a compté, Robert Skuyten.
Oui, il a compté d'ailleurs avec des choses très positives, beaucoup de très belles habitats individuels, donc de maisons bourgeoises, un petit peu aux alentours de Bruxelles, qui sont très très belles, très réussies, très intéressantes. Il a aussi participé à la démolition dans les années 50-60 du cœur de la ville. Donc la ville est très extraordinaire pour moi parce qu'elle est très déstructurée et en même temps elle est très attachante, elle est très fascinante parce qu'il y a des merveilles dans cette ville. Et puis il y a en même temps, il y a un peu un chaos qu'on met un certain temps à appréhender. Alors c'est vrai que Benoît et moi, on vit dans cette ville et c'est sûr qu'elle a terriblement déteint sur notre travail.
Vous êtes obsessionnel avec la ville en général. On parle d'architecture très présente dans votre BD, dans votre dessin, mais c'est aussi une réalité. Il y a peu de vignettes sans que la ville soit derrière.
Oui, en même temps, c'est vrai, je reconnais que je ne peux pas cacher le fait que la ville m'intéresse, enfin, l'espace urbain plutôt m'intéresse.
Plutôt que les moutons de votre enfance.
Oui, quoique. Mais en même temps... La ville est une occasion de parler de machines dans lesquelles nous vivons, qui par certains côtés nous écrasent ou nous permettent de nous développer. Enfin, on est construit par cet environnement. Et donc, c'est intéressant de percevoir comment elle nous travaille en fait, par l'intérieur.
On va prendre l'exemple de cette BD que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle Bruxelles. Vous imaginez, dans un temps toujours indéfini chez vous, on ne sait pas à quelle date on est. Moi, j'ai lu cette BD en imaginant que c'était le début du XXe siècle. Ça peut être une autre époque. Il y a des modernistes dans l'affaire qui veulent changer la ville et en faire une ville hyper moderne, quitte à détruire énormément d'habitations et à s'en foutre finalement de l'humanité.
Oui.
Le profit, la modernité et le profit.
Oui, on brise, on déstructure un tissu, une cohérence. Et en plus, des gens qui étaient attachés à des quartiers, il y avait un réseau de vie. Et il y a des vies qui sont vraiment bousculées, brisées même, je dirais, par ces immenses chantiers.
Et dans cette BD, vous dessinez l'avenir, d'une certaine manière, en tout cas l'avenir pour ces personnages.
Oui, parce que ce qui est amusant, évidemment, c'est quelqu'un qui est malade, qui a une toux, ce qui m'arrive d'ailleurs quelquefois, une toux comme ça, dont il n'arrive pas à se débarrasser. En plus, il s'occupe de plantes, il a découvert les plantes artificielles, les plantes en plastique. Donc on est sur une obsession de la modernité. Ce qui était amusant dans ce récit, c'est de montrer comment on peut se perdre à travers tout ça. On y est allé avec une part de naïveté et d'insouciance qui, je ne sais pas comment on est retombé sur nos pattes, parce que cette ville est tellement propice à l'imaginaire. On se renseigne, on écoute quelqu'un, il vous raconte une histoire, mais encore plus incroyable que tout ce que vous avez imaginé. La réalité dépasse la fiction, en réalité. Tellement les histoires sont incroyables, ici. Nous, raconteurs d'histoires, on en a besoin. Sinon, on s'assèche. Notre imaginaire est très pauvre à côté de la beauté de toutes ces histoires.
Bruxelles, chez François Skuyten, auteur de bande dessinée.
Il y a aussi une part souvent sensuelle chez vous, entre des personnages auxquels on ne s'attend pas. On parlait tout à l'heure de Bruxelles, c'est ce vieux fleuriste qui fait l'amour avec cette très jolie femme avec des seins ronds.
Oui.
Vous avez volontairement mis un peu d'érotisme d'une manière inattendue là.
Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a une sensualité de la ville. c'est pas parce qu'il y a des lignes droites, mais il y a des styles. Il y a eu le style Art Nouveau qui était un style extrêmement sensuel, extrêmement...
On retrouve chez vous souvent.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, on peut prendre la ville comme un corps. La ville est un corps humain, est un corps dans le sens qu'il est organique aussi, il réagit, il a ses mystères, il a ses beautés. J'ai toujours pensé la ville comme un espace effectivement très humain. Et l'architecture, pour moi, c'est un outil pour parler de ce corps. Et alors, évidemment, le plaisir de dessiner la femme, je prends souvent des modèles, j'ai besoin de retrouver l'observation et dans l'architecture et dans le corps.
Vous prenez des modèles, c'est-à-dire que vous faites venir des modèles chez vous ?
Oui,
c'est vrai ?
Oui, ou je vais chez eux, et je dessine.
Cette femme qu'on a sous les yeux, c'est votre BD sur Paris, elle existe ?
Oui, elle existe. C'est une actrice française, Linda Pan, qui très gentiment m'a autorisé à la dessiner, à prendre des photos.
C'est drôle parce que l'architecture, vous l'imaginez souvent, même si vous parlez du patrimoine, on retrouve certains éléments véridiques, authentiques, mais il y a aussi beaucoup d'imagination, puisqu'on est dans le futur. En revanche, les corps, là, il vous faut la réalité humaine, il vous faut des exemples.
De plus en plus. De plus en plus. Je suis presque plus capable de dessiner des personnages sans les connaître, sans avoir du plaisir. Et j'ai beaucoup de mes amis qui servent de modèles, je les photographie, je les dessine. Parce qu'alors, c'est un peu plus qu'un personnage. C'est un ami, c'est une histoire avec eux. Et puis quand vous voyez les planches, vous avez le plaisir de sentir tout un lien que vous avez avec lui ou avec elle.
Ça permet aussi de dire que vos BD sont à dimension humaine. Vous ne vous intéressez pas qu'à de l'abstraction, qu'à de l'architecture, qu'à des espaces. Il se passe des aventures humaines dans tout ça.
Oui, mais c'est terrible parce que je traîne cette étiquette architecture.
Un peu froide finalement.
Oui, un peu froide, un peu. Alors que j'ai l'impression que les récits, si on y regarde bien, ne parlent pas d'architecture. Ils parlent de toute autre chose. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'accepte, c'est déjà pas mal d'en avoir une d'étiquette. Et puis c'est vrai que j'aime bien dessiner des fenêtres, mais quand même pas au point de m'en contenter. Mais c'est vrai que l'architecture, l'espace plutôt, est une façon de créer une dramaturgie, de créer une organisation spatiale qui va permettre justement de donner sens au récit.
Quand vous avez voulu faire de la BD, il a réagi comment, votre père ?
Ah, pas très bien. Pas très bien parce que la bande dessinée était pour lui un sous-genre. Il y avait vraiment les grands arts. L'architecture, la peinture, la sculpture, la littérature. Et pour lui, la bande dessinée, c'est un truc hybride. Il n'a pas tort, d'ailleurs. Mais pour moi, ce n'est pas du tout. Le fait que ce soit hybride n'en fait pas un art en dessous. Donc mon père, il avait du mal. Mais bon, il voyait quand même bien que j'y mettais tellement d'efforts. Et puis, il voyait aussi que ça intéressait les gens. Sans doute, il s'est dit, bon, ben, tu vas avoir quelque chose. Mais il m'a laissé faire ça parce qu'il ne pouvait pas lutter. Puis j'avais publié très jeune dans Pilote. Alors, ça a, comme qui dirait, un peu bousculé les choses. Alors, il y a une anecdote là-dessus, liée à France Inter. Donc la première interview de ma vie, c'était... un journaliste de Claude Villers, c'était Marche ou rêve. Le journaliste vient à Saint-Luc, on était des jeunes auteurs tout fous et qui apprenaient à peine leur métier. Et donc on a une interview, on n'en revient pas. Et donc France Inter était intéressée de voir un peu cette école qui était en train de naître de bandes dessinées. Et donc ce journaliste nous interroge tous et puis il nous dit « Ah ben, l'émission passera à telle heure, un soir, je crois, l'émission de Claude Villers, c'était le soir. » Et je voulais convaincre mon père que c'était le bon choix parce qu'il était encore dubitatif. J'étais à Saint-Luc, mais enfin j'étais... Et alors, je lui amène la radio après le repas. Et je dis, voilà, tu vas voir, on interview, je passe à la radio et je lui allume le poste. Et donc, il y a ma famille et mon père qui est là et qui écoute. Et alors, le journaliste dit, voilà, j'ai rencontré un jeune auteur, François Cheuitant. Non, peut-être Chuitaine, hein, non. Et alors, Claude Villers, non, ça doit être Chuitaine. Et pendant, allez, j'exagère, mais peut-être 30 secondes ou 40 secondes, mon nom était sujet comme ça, à va-et-vient entre Claude Villers et le journaliste. Et là, mon père s'est levé et il a dit « J'ai compris. » De toute façon, ce nom est imprononçable. Alors, je me suis fait une raison. Alors, en France, je suis Schuiten, et en Belgique, je suis Schuiten. En Allemagne, je suis Schuiten. En Hollande, Schuiten. Enfin, bon. Et puis, je ne sais plus, à force, comment il faut le prononcer. Je n'ai pas voulu prendre de pseudonyme parce que je trouve que ce nom... il est ce qu'il est. Il veut dire, en fait, barque. C'est une barque qui va sur les canaux de Hollande. C'est voilà.
C'est pas mal.
Oui, parce que ça va lentement.
Ça vous ressemble.
Voilà, exactement. On va aller voir le musée parce que mon chien va être très fâché s'il ne va pas se promener.
Midi 20.
Midi 20, il faut y aller parce qu'il a ses horaires. Vous avez prévenu.
Allez, on quitte l'atelier pour aller promener le chien. On va descendre trois étages.
Hop,
L'atelier de Françoise Keuten, auteur de BD.
Il a une horloge dans la tête, ce chien.
Manteau noir,
oui.
Chien noir, laisse noir.
Voilà, exactement. Je suis connu dans le coin ici pour être tout au noir.
Alors, où est-ce que vous m'emmenez?
Alors, en fait, nous sommes ici à Schaerbeek, c'est vraiment le nord de Bruxelles. C'est une commune très intéressante parce qu'elle s'est beaucoup développée entre 1890 et 1914. On a beaucoup construit et il y a eu deux gares. Il y a eu une gare en 1887 et après, on y a adossé une gare en 1911. Et ces deux gares vont être un petit peu l'entrée du futur musée du train.
Et vous, votre mission, quelle est-elle?
C'est assez extraordinaire, mais la SNCB, c'est un peu comme la SNCF belge, avait depuis 50 ans l'idée de faire un musée. Et donc, il fallait un jour que ça se fasse. Mais évidemment, la difficulté, c'est que ce n'est pas essentiel un musée. On a bien d'autres urgences à faire. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont remettre ça continuellement. Et il y a environ 7-8 ans, ils ont fait un concours quand même. Ils ont dit, bon, allez, on va peut-être essayer de réfléchir. Et j'ai gagné ce concours parce que c'était tellement proche de chez moi. Je me suis dit, ça n'est pas possible. Je ne peux pas laisser passer ça. Donc, j'ai proposé un projet, un scénario qui vraiment essaye de raconter l'histoire du chemin de fer, ici en Belgique, en Europe, mais aussi de parler de l'avenir, les enjeux du rail, hier, aujourd'hui et demain. Et d'une façon pas du tout muséale, d'une façon vivante, dynamique. J'ai même dit à un moment donné que ce serait un opéra ferroviaire, pour casser le mot musée. Tout ce site va évidemment essayer de nous raconter, d'être au cœur même de cet enjeu du ferroviaire, de parler, de montrer, d'être une
vitrine. Voyage qu'on va faire.
C'est un voyage, c'est un voyage. Il y aura des trains historiques, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, parce qu'il y aura même un jardin ferroviaire plus loin qui se prolongera jusqu'à une réserve naturelle. Oui, l'idée, c'est de plonger le spectateur dans ce monde. Il y aura des machines, il y aura des grues de levage et des choses comme ça qu'on ne peut pas introduire à l'intérieur, qui sont plus intéressants à l'extérieur. Donc on quittera la gare 1913 pour aller vers donc le bâtiment qui va recevoir les locomotives. Je n'en reviens pas quand je vois les bétonnières qui le font surgir, parce que je me disais, mais non, à un moment donné, on va me dire, la récréation est finie.
Rentrez chez vous, monsieur Skuyten.
Rentrez chez vous, voilà, et non.
Et le projet du musée, c'est
Train World. Train World, c'est la Belgique. Hein. On ne sait pas dire en français, on ne peut pas le dire en flamand, alors on le dit en anglais. Voilà où on en est.
Bruxelles, retour dans l'atelier de Françoise Keuten, auteur de bande dessinée.
Le fait de vous éparpiller, j'emploie voilà. Un terme trop péjoratif, mais le fait d'être éclectique,
ouais.
On vient de voir le musée du train, en tout cas ce que sera en 2015 ce musée du train, ce Train World,
ouais.
Le fait de faire de la scénographie d'opéra, etc. C'est pour oublier un peu vos doutes devant votre planche à dessin?
Oui, et puis c'est pour garder le goût de la planche à dessin, c'est-à-dire
avoir plaisir d'y revenir.
Plaisir d'y revenir, d'y courir même, de se dire, allez, je vais en découdre. Si vous êtes tout le temps devant votre table de dessin, vous êtes dans une bulle, enfermé un peu.
Être dans une bulle pour un auteur de BD, c'est merveilleux.
C'est merveilleux, mais en même temps, c'est une prison, parce qu'il n'y a rien à faire, il doit se confronter au réel, il doit être bousculé, il doit se réinventer, mais à partir de choses qui le troublent. Sinon, vous savez, si on respire toujours le même air, on s'asphyxie. L'opéra me convient vraiment tellement bien, parce qu'il y a le son, il y a la musique qui prend une place, qui fait qu'on est dans un autre espace. C'est pas pour rien que Jacobs a fait de l'opéra, qu'il était chanteur d'opéra, et que peut-être Black et Mortimer sont quand même encore nourris par cette dimension opératique, nourris par cette espèce de poético-dramaturgie qui fait que le dessin s'exprime très très bien dans cette dimension-là. Tout est possible. Il y a des dimensions d'émotions qui peuvent surgir, qui pour moi me donne le sentiment que c'est assez proche de ce que je peux parfois découvrir ou que j'essaye de faire devant ma table de dessin. C'est-à-dire, oui, dans ces petites cases, de faire surgir une émotion, une dimension, de creuser la page et d'y faire apparaître des choses incroyables.
Le dessin vous a permis et vous a autorisé à créer aussi des costumes ?
Ah oui. Mais vous savez, quand vous faites de la bande dessinée, vous faites la lumière, vous faites les personnages, vous êtes acteur, vous faites des costumes, vous devez plein de petits métiers autour de BD. Il faut bien faire ses lettrages, bien faire ses cases, bien faire son décor, bien faire ses personnages. Et j'aime beaucoup ça, moi, ces petits métiers. Il faut que le costume soit bien fait, qu'il soit bien juste, il faut quand même que ça soit bien taillé. Quand vous faites des chaussures, il faut quand même savoir comment c'est fait une chaussure, comment... Et quand vous faites une voiture, eh ben, il faut être un peu comme un constructeur de voiture. Il faut qu'on la sente.
Il y a une image qui me vient, là, c'est votre père qui emmène ses enfants, la tribu Skuyten, au musée. Mm-hmm. Les enfants ont tous un petit calepin et un crayon et dessinent ouais. les sculptures ou les tableaux qu'ils voient. Ouais. Hein, on reproduit, ouais. on essaie. Et ils regardent notamment ce que vous faites et ils s'arrachent les cheveux parce qu'ils disent « Vous ne serez jamais de la croix ».
Oui, c'est vrai. Je ne serai jamais de la croix. Je ne serai pas Rubens, je ne serai pas Rembrandt. Mais en même temps, il m'a appris à essayer d'être Delacroix, à essayer d'être Picasso, de faire des papiers collés, de faire des aquarelles comme Paul Klee ou comme Turner. Alors, j'étais toujours catastrophique, mais j'ai quand même regardé tout ça et c'était une très bonne formation. J'ai même, là, une des rares planches de bande dessinée que j'ai copiée, c'est une planche de Fret. Je lui ai dit d'ailleurs, de Philémon. J'adorais Philémon. J'adore toujours d'ailleurs. J'étais très jeune, mais... J'avais tellement de plaisir à dessiner Philémon. Commencer par ça, c'est pas plus mal, hein, parce qu'on apprend à regarder.
À quel âge vous avez cessé de copier ?
Je me rappelle, une fois j'ai dessiné, il y avait un grand cèdre du Liban à la maison, et mon père a regardé ce dessin, et il a dit, oui, là, maintenant je sais que tu vas être dessinateur. Parce qu'il m'a dit, tu l'as vraiment regardé. Le fait que je m'étais vraiment appliqué à essayer de comprendre la beauté de cet arbre. Pour lui, c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, allez, peut-être qu'il va y arriver.
Est-ce que ça vous a libéré d'entendre ça ?
Oui, sans doute.
Mais comment vous avez su que vous alliez faire de la BD ?
Alors ça, j'ai toujours rêvé de faire ça. C'est mon frère qui me racontait, qui me lisait Black et Mortimer sur ses genoux et Spirou et Fantasio. Et en fait, j'avais sa voix. Et il dramatisait, il prenait les voix de... Ça passe toujours aussi par la foi, vous voyez. Et puis bon, je regardais ces dessins. Et sans doute que là, j'ai eu des émotions que j'ai eu envie de retrouver.
L'atelier de Françoise Teuken a été mixé par Gilles Gaillard. Samedi prochain, c'est dans l'atelier de l'écrivaine Danielle Salnave que Vincent Josse vous donne rendez-vous.